Bonjour à toutes et à tous. Buenos dias, bon dia, pour ceux qui parlent portugais ou brésilien, parce qu'apparemment la plupart du public est au moins hispanophone. Donc nous allons démarrer notre journée de colloque sur les séries télévisées en Amérique latine, dans le cadre d'un cycle d'événements qui s'intitule Global Television, dont c'est la deuxième édition. Le deuxième épisode, je dirais plutôt, qui va être consacré à la zone culturelle Amérique latine. Déjà, l'Amérique latine, c'est une zone suffisamment large et diverse pour signifier différentes choses, en termes de langue, en termes d'histoire, en termes aussi d'histoire de la télévision. Donc, la Bibliothèque publique d'information est très heureuse de s'associer au réseau Série, qui est présidé par Barbara Villès, qui va nous faire un petit mot d'introduction tout de suite après mon mot d'accueil. Avec le LCP, le Laboratoire de Communication Politique de Paris 8 et qui dépend aussi de l'IRISO, ils vont nous réexpliquer un petit peu les différents partenariats, avec l'INALCO, notamment le CERLOLM de l'INALCO qui est aussi partenaire de l'opération. Et nous allons, vous avez dû avoir un petit programme qui vous donne un petit peu le déroulé de la journée, qui va démarrer par une conférence de Maria Immacolata du Brésil, du réseau Bitel, et qui se terminera ce soir par une soirée plus culturelle autour des séries télévisées, des représentations véhiculées dans les séries télévisées en Amérique latine, des représentations de la société, de l'histoire, race, religion, orientation sexuelle. Nous allons démarrer. Je vous rappelle aussi, c'est ce que je voulais vous dire aussi ce matin, que les débats sont enregistrés en mode au moins audio, voire vidéo pour certaines tables. Donc vous pourrez les consulter ou les indiquer à d'autres personnes qui n'auraient pu être présentes parmi nous. Et je vais donc laisser la parole maintenant à Jennifer Oudiard et Barbara Villez, qui vont nous faire un petit mot d'introduction, qui nous ont aidés à préparer ce colloque, qui sont les conseillères scientifiques du colloque, et qui vont nous donner un petit peu la tonalité des échanges qui auront lieu toute la journée. Merci à vous.
Donc, je vais vous parler un petit peu du réseau qui est à l'origine de ce projet. Et je travaille sur la télévision, je ne suis pas à la télévision. Donc ici, mais personne ne me voit parce que je suis...
Là, c'est bien.
OK, d'accord. Okay. Alors, le réseau Série a été créé en 2010 suite à la... On a appris que le professeur Jane Foyer, qui est une importante chercheuse sur les séries télévisées, a été en Allemagne. Et donc, on a voulu profiter de sa présence pour faire une rencontre avec des jeunes chercheurs français, parce que alors que les chercheurs américains et britanniques étudient des séries depuis une quarantaine d'années, c'est depuis les années 2000 que les Français s'y mettent. Et c'était à l'origine surtout des Français dans des départements de langue et de lettres. Maintenant, on trouve de plus en plus d'intérêt dans des départements de sociologie, de géographie, de droit, etc. Alors, à la suite de cette rencontre en 2010 avec Jane Foyer, on a créé le réseau Série, qui a un nom anglais parce que c'était plus pratique de trouver un sigle à partir de l'anglais. C'est Scholars Exchanging and Researching International Entertainment Series. Et ça donnait donc l'acronyme Série. On a un site web et au départ, le site était surtout pour fournir une bibliographie de base sur des études sur les séries télé aux jeunes chercheurs et aux étudiants qui voulaient commencer à se lancer dans le domaine. Avec le temps, le site web est devenu aussi un repère de quels enseignants-chercheurs se trouvent où et quelles sont leurs spécialités afin que les jeunes chercheurs puissent, s'ils veulent entamer des thèses, savoir qui contacter et où. En 2013, une jeune politologue est venue me voir pour parler d'une série. Elle travaillait sur la politique turque et elle a passé une année en Turquie. Elle a découvert une série qui était très étonnante, qui se démarquait des autres. Et on a appris que cette série a été écrite non pas par des scénaristes, mais par des journalistes. Et que ça a changé par rapport à ce qu'il y avait en grand nombre à la télévision turque. Parce que c'est une série qui s'attaquait à tous les tabous et tous les problèmes sociaux dans cette société. Et donc, on a commencé à parler de ça. Et on s'était dit, il faudrait faire une journée d'études. Et la journée d'études est devenue un colloque. Et on a été joint par Stéphane Sewas à INALCO et le laboratoire communication et politique, qui est maintenant, enfin du CNRS, mais qui est maintenant marié avec l'ERISO à la faculté de Dauphine. Et moi, venant de Paris 8, ça faisait une collaboration très, on va dire, à la fois très riche et difficile à gérer. Mais bon. À la suite de ces premières recherches, on a vu que les séries turques non seulement s'exportaient partout dans la Méditerranée, le Maghreb, les Balkans, mais la Grèce. Et alors, quand on commence à réfléchir sur le passé, sur l'histoire entre la Grèce et la Turquie, cette exportation d'objets culturels qui sont les séries télé prennent encore plus d'intérêt et plus d'importance. Donc, on a organisé ce premier colloque, et en étudiant donc les séries turques, on a découvert autre chose extrêmement importante qui nous a amené à concevoir un cycle de colloques. Et cette découverte, c'était quoi? C'était que dans la Méditerranée, les séries turques s'exportaient plus que les séries américaines. Et on voyait que les séries américaines commençaient à perdre le monopole de la création et de la production et de l'exportation des séries dans le monde. Alors, maintenant, on se dit, on a ce cycle qui est Global Television, parce qu'on voit que les séries qui voyagent influencent les attentes des téléspectateurs, ça influence les goûts des téléspectateurs, mais ça peut aussi avoir une influence sur les techniques et les habitudes de production. Et par exemple, la vente de formats de New York Police Judiciaire en New York et en Paris, Paris Affaires Criminelles, je crois que c'était. Les Américains ont envoyé une équipe à Paris pour gérer la vente de format. Et les techniciens français ont découvert que les Américains travaillaient des journées de 18 à 24 heures. Et les Américains sont revenus aux États-Unis en disant « Mais les Français mangent pendant une heure et demie. » Donc, les habitudes et les techniques de production, ça s'échange aussi bien que les goûts et les attentes des téléspectateurs. On va maintenant, avec ce cycle, voyager à travers le monde et on va étudier à un moment donné les séries d'Afrique, les séries de la Corée du Sud, les séries de l'Europe du Sud, les séries de l'Europe du Nord, les séries du Commonwealth. Et à la fin du cycle, on va retourner aux États-Unis pour voir comment tout ce mouvement et ces échanges auraient éventuellement influencé les rythmes d'écriture, l'esthétique et aussi les techniques de production et le marché, évidemment, pour les séries américaines. Donc maintenant, vous êtes là parce que cette année et aujourd'hui, on va travailler sur les séries d'Amérique latine, qu'on découvre aussi une richesse absolument extraordinaire. Et Jennifer va vous parler surtout de l'Amérique latine et ce qu'on a découvert sur ces séries-là.
Merci, Barbara. Alors, le projet Global Television... Ah oui, ouf. Donc, on est à la confluence de plusieurs champs disciplinaires parce que les séries télévisées peuvent être abordées avec plusieurs perspectives différentes qui sont, selon nous, complémentaires. Ce sont des productions artistiques, donc elles vont constituer un objet d'étude intéressant pour les études littéraires, théâtrales, cinématographiques. La série télévisée, c'est également une pratique culturelle qui va intéresser les sociologues et les philosophes pour examiner la jeunesse des fictions, leur contenu, leur réception. Enfin, la télévision est aussi, et surtout, pourrions-nous dire, une industrie. Donc, la dimension économique des fictions télévisées, les stratégies de production, les stratégies de programmation vont constituer autant d'angles sous lesquels les séries peuvent être examinées. Donc, interdisciplinarité, c'est une des clés de voûte du projet, qui va inclure, bien sûr, des universitaires d'horizons divers, mais aussi des professionnels de la télévision dans une perspective d'enrichissement mutuel. Ce colloque est tout à fait représentatif du projet Global Television. On a aujourd'hui des spécialistes de différents domaines, des chercheurs, producteurs, artistes, qui vont s'interroger sur les fictions sérielles latino-américaines. On a également des regards et des voix internationaux. Plusieurs pays d'Amérique latine sont représentés au sein des intervenants, le Mexique, le Chili, le Brésil. On compte également des spécialistes européens, espagnols, français, ou encore des latino-américains installés en France actuellement. Alors, on parle d'Amérique latine depuis ce matin. Il faudrait peut-être se poser la question de ce que signifie Amérique latine. Un territoire multiple. Alors, on peut avoir depuis l'étranger une impression d'unité qui est trompeuse. Ce qu'on appelle Amérique latine, ce sont 19 pays de cultures et de langues diverses répartis entre l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale et le cône sud, soit presque 600 millions d'habitants répartis sur plus de 20 millions de kilomètres carrés. Une base culturelle latine, entre guillemets, catholique, principalement hispanophone et lusophone, qui va s'exprimer de manière différente selon les pays en fonction de leur histoire respective. Le paysage télévisuel latino-américain va être à l'image de cette aire géographique immense, très contrastée, complexe, mouvant, comme on va le voir tout au long de la journée. Alors, depuis l'Europe, c'est difficile de parler de télévision latino-américaine sans penser à la telenovela. Bien évidemment, les téléspectateurs français ont pu découvrir quelques spécimens, notamment sur France O, Abismo de Pasión, je citerai uniquement un titre. Alors, on pourrait s'imaginer qu'on est face à une image caricaturale dépassée de ce qu'est le paysage télévisuel latino-américain. Or, cette vision ne reflète bien sûr que partiellement la diversité du paysage télévisuel latino-américain actuel, mais ne relève pas d'un grossier stéréotype. Plusieurs intervenants nous l'expliqueront, la telenovela reste actuellement un genre florissant dans de nombreux pays d'Amérique latine. Toutefois, la télévision latino-américaine, la fiction sérielle latino-américaine, a connu de profonds changements, dans la mesure où la telenovela, qu'on appelle également téléserie, côtoie sur les grilles de programme d'autres types de fiction sérielle. Certaines de ces séries sont imaginées et créées localement, parfois à partir de problématiques spécifiques à leur terre de naissance, la mémoire historique, les intrigues politiques, les inégalités sociales, par exemple, sont des thèmes qui vont nourrir des fictions profondément ancrées dans la recréation d'un contexte spécifique, identifiable comme réel. On peut penser par exemple à certaines fictions chiliennes, argentines ou brésiliennes qui reviennent sur les régimes dictatoriaux connus par ces pays, qui évoquent la répression, les disparus. Dans d'autres pays comme la Colombie, apparaissent des problématiques encore actuelles comme le narcotrafic. On va même parler de narconovela pour désigner un type de fiction qui s'inscrit dans le phénomène de la narcoculture. D'autres produits sont inspirés de recettes ayant fait leurs preuves à l'étranger. Donc on pense bien sûr aux séries états-uniennes, mais pas uniquement. Barbara parlait tout à l'heure du colloque sur les séries turques, colloque Global Television organisé par Stéphane Sawas, ici présent, Barbara Vilez et Béatrice Garapon. Les fictions turques rencontrent un immense succès en Amérique latine, notamment au Chili. Alors, échange entre l'Amérique latine et l'étranger, de l'étranger vers l'Amérique latine, mais pas seulement. Les fictions latino-américaines voyagent également dans le monde entier. L'Argentine est l'un des premiers pays exportateurs de formats et de concepts, comme on le verra dans la conférence vidéo d'Etel Pizdiez, consacrée au phénomène Violeta. Des formats latino-américains ont donné lieu à des séries à succès dans plusieurs pays. Pensons par exemple à la série colombienne Yo soy Betty la Fea, hein, qui est à l'origine de plus de 15 adaptations aux États-Unis, Ugly Betty, en Espagne, mais aussi aux Philippines et en Chine. D'autres séries sont exportées directement et sont traduites pour les publics non hispanophones. On verra que les choix en matière de traduction ont des enjeux multiples. On verra avec le cas de La Reina del Sur. Certaines séries sont exportées telles quelles, en version originale, dans l'ère hispanophone, dans l'ère hispano-américaine, pardon, mais aussi vers des pays qui comptent une importante communauté hispanophone, comme les États-Unis. Donc nous aborderons toutes ces questions, et sûrement d'autres, à travers la conférence plénière, une conférence vidéo qui nous sera transmise par la suite, et deux tables rondes. Première table ronde consacrée au marché et aux conditions de production. Seconde table ronde durant laquelle nous parlerons de réception et d'adaptation. Enfin, ce soir, nous vous proposerons de découvrir une série d'extraits représentatifs des séries télévisées. La projection sera suivie d'un débat entre artistes et chercheurs spécialistes des questions d'identité.